vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien. On aura ensuite un point sur les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, une news concernant la Nintendo Switch 2, une news technologie avec LG qui lance son incroyable téléviseur OLED transparent à 60 000 $, rien que ça. Et on finira l'émission avec les quelques petites sorties de la semaine. On commence donc avec le test de Indiana Jones et le Cercle Ancien, ou Indiana Jones and the Great Circle en anglais. Donc c'est un jeu d'action-aventure à la première personne qui est jouable en solo. Il a été réalisé par Jerk Gustafson avec la musique de Gordy Abe. Il a été produit par Todd Howard, développé par Machine Games et édité par Bethesda Softwork. Il est basé sur la franchise Indiana Jones et présente un récit original tiré de la série de films. Bethesda et Machine Games ont annoncé conjointement le développement du jeu en janvier 2021 en collaboration avec Lucasfilm Games. Il s'agit du premier jeu basé sur la franchise depuis Indiana Jones Adventure World qui était sorti en 2011. Indiana Jones et le Cercle Ancien sort sur Microsoft Windows et Xbox Series le 9 décembre 2024 et il sera disponible sur PlayStation 5 au printemps 2025, mais on n'a pas encore de date précise. Donc Indiana Jones et le Cercle Ancien plonge dans l'univers de l'archéologue le plus célèbre du cinéma. Situé entre le deuxième et le troisième film, cette aventure vous propose de résoudre des énigmes, d'explorer des niveaux et surtout d'utiliser votre fouet afin de découvrir le mystérieux Cercle Ancien. Le jeu est classé PEGI 18 et il obtient une note de 16 sur 20 de la part de jeuxvideo.com pour une note globale de 86 sur 100 sur Metacritic. Voilà des années que l'action-aventure à la sauce chasse au trésor est gouvernée par Uncharted et Tomb Raider, mais il est temps pour le daron du genre de revenir en force. Je veux bien sûr parler d'Indiana Jones, le célèbre archéologue créé par Steven Spielberg et George Lucas dans les années 80 et qui a depuis eu le droit à 5 longs métrages. Le héros a aussi roulé sa bosse du côté du jeu vidéo, notamment à l'époque des point and click, mais ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu le droit à une aventure en pixels digne de ce nom. C'est cet affront que le studio Machine Games veut à présent réparer avec Indiana Jones et le Cercle Ancien, sorti le 9 décembre dernier sur PC et Xbox Series, donc je l'ai dit au printemps 2025 sur PlayStation 5. Donc est-ce que les développeurs qui sont quand même à l'origine des récents Wolfenstein ont réussi à donner un coup de fouet à la licence? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bien qu'on parle d'un jeu vidéo, Indiana Jones et le Cercle Ancien occupent une place bien précise dans la chronologie d'Indiana Jones. Le titre se situe entre les premières aventures du professeur au cinéma, à savoir les aventuriers de l'Arche perdue et la dernière croisade. On est donc loin du vieux schnock dépeint dans le cadran de la destinée, le long métrage le plus récent. Ici, c'est les années 1930, l'archéologue est dans la fleur de l'âge et il n'hésitera pas une seconde à quitter son bureau lorsqu'un mystérieux personnage s'introduit au Marshall College. Un artefact a en effet été dérobé à l'endroit même où Indy enseigne et on comprendra rapidement que l'objet a un lien avec le Cercle Ancien. De quoi embarquer Indiana dans un nouveau tour du monde entre l'Italie, l'Égypte et la Thaïlande, aux côtés de Gina, un personnage complètement inédit à la recherche de sa sœur. Le duo fera tout pour arrêter Emmerich Voss, archéologue allemand au service d'Hitler. Donc maintenant que j'ai dit ça, le Cercle Ancien reste du 100% Indiana Jones et ne vous attendez donc pas à une écriture aussi introspective que dans Uncharted 4. L'histoire de Machine Games suit à fond les codes de la franchise, c'est manichéen à souhait avec des nazis très très méchants et un Indy qui est là pour sauver le monde. D'une certaine manière, le scénario est cousu de fil blanc, ce qui n'empêche pas les développeurs de glisser de ci de là des thématiques un peu plus personnelles sur l'archéologue. Mais ce qu'on retient le plus du Cercle Ancien en termes d'écriture et de mise en scène, c'est son respect impeccable de la licence. Avec ses nombreuses cutscenes soignées et sa VF de bonne facture, on a parfois le sentiment d'être au cinéma devant un nouvel épisode. C'est drôle, goofy à souhait, sans toutefois oublier les scènes d'action ou de tension. Franchement, si vous adhérez au cahier des charges de Mr. Jones, c'est un bonheur à suivre. Mention spéciale d'ailleurs à Richard Darbois, le doubleur historique d'Harrison Ford en français, qui signe ici une belle prestation. On aime aussi beaucoup les personnages de Voss en tant que grand méchant manipulateur et colérique sur les bords. Ces deux personnalités profitent d'ailleurs d'un très beau boulot au niveau des expressions faciales, ce qui est malheureusement moins le cas pour Gina. L'acolyte d'Indy dans cette aventure reste néanmoins quelqu'un de plutôt intéressant et de bien écrit. Si le cercle ancien reproduit à la lettre tout le charme des films de Spielberg, il restait toutefois à tout à inventer en matière de game design. D'une façon plutôt surprenante, Machine Games mise sur des zones semi-ouvertes entrecoupées de passages plus linéaires. Ces zones semi-ouvertes, il y en a en tout 3 dans l'aventure, et on ne peut pas dire que leur design soit irréprochable. Globalement, bien qu'on puisse aller où on veut quand on veut, les plus gros points d'intérêt resteront inactifs tant qu'on n'a pas la bonne quête. Et si ça peut se comprendre pour les missions principales, ça devient assez frustrant quand on tombe sur un secret secondaire qui nous supplie d'être résolu. C'est souvent le cas au Vatican, qui est d'ailleurs la première zone semi-ouverte du titre. Il s'agit d'un niveau dense, avec des passages dérobés dans tous les sens, où on peut facilement passer du coq à l'âne rien qu'en flânant. Donc si vous êtes en mode chasseur de trésors, vous visiterez tout et tomberez sur des portes fermées ou des énigmes devant lesquelles Indy reste muet. Il faut en réalité suivre de façon scolaire le journal de quête, ce qui amène à revoir une partie de ce qui a déjà été visité. Donc ce n'est clairement pas la meilleure des entrées en matière. Le jeu manque en effet d'un système pour éviter aux joueurs de tourner en rond, comme une phrase « je devrais revenir plus tard » ou « il me manque quelque chose ». Donc je vous rassure, ces déconvenues ne gâchent pas le plaisir, et dans la suite de l'aventure, notamment à Gizeh, Machine Games se révèle plus habile dans sa manière de construire les zones ouvertes. On prend plaisir à visiter les abords des pyramides et à plonger dans l'obscurité de leurs tombeaux. Malgré tout, en termes de structure, le cercle ancien laisse un petit goût d'inachevé. Donc c'est une bonne chose de vouloir accorder de la liberté aux joueurs, mais on sent que Machine Games n'est pas tout à fait à l'aise avec l'exercice. Parfois le studio nous laisse nous dégourdir les jambes alors qu'il n'y a rien de particulier à trouver, et on se dit qu'un passage linéaire, voire une cinématique, aurait été un meilleur choix. Le titre tombe également dans les travers du monde ouvert, avec notamment des collectibles, qui même s'ils ont une utilité pour Indy et la progression du joueur, sont un peu en décalage avec ce qu'on attend d'un jeu Indiana Jones. Même chose pour la profusion de documents à lire ou de coffres dont il faut trouver la combinaison. Donc après, certains secrets annexes valent le coup d'œil, même s'ils aboutissent rarement sur une découverte marquante. Dans tous les cas, votre curiosité vous rapportera des points d'aventure afin d'améliorer les capacités de l'archéologue. Le tout ne passe pas par un arbre de compétences, mais par des livres que vous trouverez au gré de votre exploration. Une bonne chose, parce qu'on aurait quand même eu du mal à imaginer un arbre de compétences dans un jeu Indiana Jones. Enfin, notez que Machine Games vous autorise à revenir dans des niveaux déjà visités pour aller au bout de toutes vos trouvailles. Donc pour le 100%, comptez environ une trentaine d'heures. Voilà, on va faire une petite pause dans ce test. On va tout de suite s'écouter une musique extraite du film Indiana Jones et le Temple Maudit. C'est la musique Short Horns Theme de John Williams. Et on revient juste après.
Thank you.
Donc c'était la musique Short Round Theme composée par John Williams qui a été extraite du film Indiana Jones et le Temple Maudit. On continue donc avec la deuxième partie du test sur le jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien. Donc que vos découvertes fassent partie de la quête principale ou non, il faudra en tout cas les accomplir à la première personne. Donc oui, il ne vous aura pas échappé que le Cercle Ancien mise sur une vue FPS et non pas TPS. Un choix plutôt osé pour le genre, qui confère au titre une approche unique et qui est un excellent choix. Le tout rend les phases d'action assez originales, donc dans cette aventure Indy aura très souvent l'occasion de jouer des points avec ses copains nazis. Les armes à feu restent quant à elles une option et ont parfois leur place dans des scènes d'action plus musclées, mais la moindre détonation alerte les adversaires alentour. Vous serez donc beaucoup plus amené à coller des mandales ou à miser sur une approche encore plus silencieuse. Donc coller des mandales, certes, mais pas n'importe comment. Vous l'aurez compris, Indiana n'est pas un super-héros, sa vie et son endurance sont limitées et il se retrouvera rapidement à bout de souffle si vous enchaînez les patates en mode Jet Li. Les affrontements du Cercle Ancien demandent donc une certaine patience et une bonne lecture des gestes ennemis. Il faudra parer et contre-attaquer au bon moment, tirer parti de l'environnement et des objets autour de vous, et savoir quand s'éloigner pour dégainer le fouet. Car oui, en marge du revolver, l'arme en cuir préférée du professeur et de la partie, et a d'ailleurs été ajoutée d'une bien belle manière. Le fouet peut claquer ou s'accrocher à quelque chose, et ses effets sont localisés. En visant au bon endroit, vous pourrez ainsi agripper un nazi par les pieds ou le désarmer. Notez que l'outil tient également une place toute particulière dans l'exploration, où il permet à Indy de traverser des gouffres et d'escalader des murs. Dans l'ensemble, les phases d'action marchent bien, voire très bien, c'est intéressant à jouer, le travail sur le son rend bien compte de l'impact des coups, et avec pas mal d'entraînement, vous pourrez même placer un finish move digne de ce nom. On regrette seulement les intelligences artificielles dont la gestuelle manque au global vraiment de naturel, ce qui se ressent rapidement en combat. En fait, leurs mouvements sont parfois un peu erratiques et un match de boxe peut vite devenir compliqué à lire voire frustrant quand les points fusent dans tous les sens ou lorsque les ennemis sont en nombre. Enfin, pour ce qui est de l'infiltration, on note dans les zones ouvertes la présence systématique de costumes pour entrer tranquillement dans des zones protégées, ce qui n'efface pas totalement la possibilité de vous faire repérer. Indy ne peut d'ailleurs pas transporter d'armes en plus de celles fournies par son accoutrement, ce qui vous obligera à piocher souvent dans les décors des armes de fortune à la durabilité limitée. Préparez-vous donc à taper du nazi à coups de balai ou de rouleau à pâtisserie, les objets pouvant également être lancés. Donc cette idée va comme un gant à la caméra FPS et à l'humour de la licence. Mais dans la vie d'un chasseur de trésors, il n'y a pas que l'action. Bien sûr qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien comprend plein d'énigmes, donc rien d'insurmontable au programme, même lorsque la difficulté des puzzles est à son maximum. Ces derniers reposent quasi systématiquement sur un langage très visuel, intégré au décor même, et il faudra rarement prendre des notes dans la vie réelle. D'ailleurs, la navigation du carnet in-game où Indy entrepose tous les documents de l'aventure est plutôt laborieuse, et ça devient vite le bordel quand on veut accéder rapidement à un indice précis. Dans tous les cas, si vraiment vous êtes bloqué, un système d'aide est de la partie. Il est intégré à l'appareil photo, un autre outil que possède l'archéologue. Et si ça ne passe toujours pas, vous pouvez changer la difficulté des puzzles en pleine partie depuis le menu pause, donc il est possible de faire de même pour les phases d'action. Globalement, les énigmes du Cercle Ancien déçoivent un peu, leur simplicité donne rarement l'impression de résoudre vraiment quelque chose. On peut aussi imputer ça à la structure du jeu, construit comme un enchaînement de quêtes qui n'ont pas toujours un lien direct avec le gros mystère de l'aventure. Le récit tient également plus de la course-poursuite et il manque peut-être un effet waouh à la fin, où toutes les pièces du puzzle sont censées s'assembler. Pas de claque comparable à la découverte de Libertalia dans Uncharted 4, par exemple. Après, ne vous inquiétez pas, Indiana Jones et le Cercle Ancien réservent des moments marquants, notamment grâce à sa réalisation. C'est l'une des grandes forces du titre, donc je ne vais pas parler de claques graphiques non plus, et on note d'ailleurs des PNJ avec des visages un peu trop figés, des effets assez sommaires pour tout ce qui touche à l'eau ou au feu, mais dans l'ensemble, les environnements transpirent d'authenticité et nous transportent vraiment ailleurs, ce qui n'est quand même pas à prendre à la légère pour un jeu Indiana Jones. Certains panoramas comme l'Himalaya sont même franchement impressionnants, et c'est là aussi que la caméra FPS prend tout son sens. Elle permet d'être au plus près des décors, et Machine Games a réalisé un véritable travail d'orfèvre sur ce point. Les lieux les plus importants sont bourrés de détails, à tel point qu'on frôle parfois le jeu musée. Et quand la superbe musique, qui colle parfaitement à l'esprit des compositions originales, vient ajouter son grain de sel, eh bien ça crée une sorte de magie. ça vaut presque le coup de revenir dans d'anciens niveaux, juste pour l'ambiance. Mais la copie n'est pas parfaite non plus. Donc, j'ai déjà mentionné la gestuelle des PNJ qui rappelle parfois Half-Life 2, ce qui n'est plus un compliment aujourd'hui, et il faut aussi noter des ralentissements fréquents lors des cinématiques, des bugs de collision et des bugs audio. Il y a aussi quelques soucis de script obligeant à recharger une ancienne sauvegarde. Pour le reste, le cercle ancien tourne dans un impeccable 4K 60fps sur Xbox Series X, et le jeu ne propose d'ailleurs pas de mode graphique. Donc pour résumer les points forts du jeu, on a une vraie aventure Indiana Jones, un respect impeccable de la licence, le choix de la première personne, on a un jeu parfois impressionnant visuellement, des cinématiques dignes des films et la musique. Pour les points faibles, on a des zones ouvertes qui sont souvent maladroites, les PNJ qui n'ont pas grand-chose de naturel, les énigmes qui laissent sur notre faim et il y a encore pas mal de bugs. Voilà, du coup on va pouvoir s'écouter une musique extraite cette fois-ci du film Les Aventuriers de l'Arche Perdue, c'est Flight from Peru, composé par John Williams, et on revient juste après. Donc c'était la musique Flight from Peru composée par John Williams et extraite du film Les Aventuriers de l'Arche Perdue. On va faire une petite pause publicité et on reviendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, une news jeux vidéo, une news technologie et on finira avec les sorties jeux vidéo de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec le top des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch. On a en 5ème place Nintendo Switch Sports sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 4ème place est eSports FC25 sur PS5, un jeu d'Electronic Arts. En 3ème place est Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 2ème place, on a Call of Duty Black Ops 6 sur PS5, un jeu d'Activision Blizzard. Et en 1ère place, c'est Super Mario Party Jamboree sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Le top 3 pour la PS5, on a en 3ème place Dragon Ball Sparking Zero. En 2ème place, c'est eSports FC25. Et en 1ère place, Call of Duty Black Ops 6. Pour la Xbox Series, on a en 3ème place Indiana Jones and the Great Circle. En 2ème place, on a eSports FC25. Et en 1ère place, Call of Duty Black Ops 6, l'édition CrossGen Bundle. Pour la PS4, on a en 3ème place NBA 2K25. En 2ème place, c'est Call of Duty Black Ops 6, l'édition CrossGen Bundle. Et en 1ère place, eSports FC25. Le top 3 pour l'Xbox One, on a en 3ème place Red Dead Redemption 2. En 2ème place, c'est Grand Theft Auto 5, l'édition Premium. Et en 1ère place, Hogwarts Legacy. Le dernier top, c'est le top 3 PC, avec en 3ème place Minecraft, Java and Bedrock. En 2ème place, Farming Simulator 25, l'édition Collector. Et en 1ère place, Farming Simulator 25, mais l'édition normale. On passe maintenant à la news jeux vidéo, ou plutôt hardware. Donc le reveal de la Nintendo Switch 2 est désormais attendu pour le début de l'année 2025, et forcément l'excitation est à son comble. De ce qui se dit, la machine pourrait intégrer une technologie très prisée, capable de la faire rivaliser avec les consoles concurrentes modernes. Donc tout d'abord, petit rappel des faits, même si Nintendo n'a toujours pas dévoilé concrètement sa nouvelle console, ce qui devrait arriver durant les premiers mois de l'année 2025, de plus en plus de leaks tombent à son sujet. Ainsi, la machine serait dotée d'une puce Nvidia GMLX30R A1 avec 12Go de RAM, un SSD de 256Go et une compatibilité HDMI 2.1. Cela lui permettrait ainsi d'avoir une puissance équivalente voire supérieure à celle d'une PlayStation 4 Pro en mode portable. En mode dock, la Switch 2 libérerait davantage sa puissance, qui se rapprocherait alors de celle du Xbox Series S. Surtout, le fait d'avoir le soutien de Nvidia permettrait un grand avantage, l'utilisation du DLSS, une technologie très prisée développée par l'entreprise américaine et que l'on peut déjà retrouver sur PC via les cartes graphiques Nvidia. Celle-ci se base sur un concept d'intelligence artificielle qui upgrade en temps réel la définition de l'image et qui permet d'avoir une résolution bien supérieure tout en ayant un framerate élevé, sans pour autant lésiner sur les détails graphiques. C'est d'ailleurs sur le DLSS que se calque le PSSR de Sony, proposé sur la PS5 Pro. Donc grâce à des composants récents et l'astuce ultime du DLSS, la Switch 2 pourrait alors faire tourner les jeux sortant actuellement sur PS5 et Xbox Series, proposant de la 4K sans oublier de possibles innovations côté hardware développées par Nintendo, donc notamment de nouveaux Joy-Con. Cela lui permettrait de s'aligner avec ses concurrents, mais aussi de proposer ses licences sous un jour encore jamais vu. D'ailleurs, il se dit très sérieusement qu'une nouvelle version de The Legend of Zelda Breath of the Wild verrait le jour sur Nintendo Switch 2. Des propos venant de Samus Hunter, qui avait déjà vu juste concernant la sortie de Xenoblade Chronicles 6, la définitive édition, qui était donc sortie sur Nintendo Switch. Un jeu ainsi que pour deux jeux multijoueurs qui sont déjà sortis. Ces titres seraient dévoilés dans le reveal de la Nintendo Switch 2, il n'y a donc plus qu'à attendre. On passe maintenant à la news technologie. Donc l'entreprise d'électronique sud-coréenne LG a récemment dévoilé son tout nouveau modèle de téléviseur et l'appareil est époustouflant. Avec un design tout en transparence, cette télévision grand luxe est une prouesse d'ingénierie, tant en matière de performance que de design. Donc LG a annoncé que son téléviseur transparent de 77 pouces, qui peut basculer entre les modes transparent et opaque, est finalement disponible à l'achat pour le prix faramineux de 60 000 $. Notons que le LG OLED T, qui devait initialement être lancé à la mi-2024, est tout de même assez exceptionnel puisque ce téléviseur intelligent a un design qui lui permet de s'intégrer à la perfection dans un environnement luxueux et futuriste. Contrairement au téléviseur classique, le LG OLED T ne constitue pas une entrave dans la pièce dans laquelle il est placé lorsqu'il n'est pas utilisé. Point intéressant, ce téléviseur haut de gamme est livré avec un boîtier de connexion sans fil et cela permet de transmettre tous les appareils connectés, comme une PS5 ou un lecteur DVD, le tout à l'écran sans aucun fil, encore moins d'encombrement avec cette télé. Cette télévision peut également servir de toile avec le mode T-Object et LG n'a pas sacrifié la performance au profit du design puisqu'il s'agit tout de même d'une télévision OLED 4K avec un excellent graphisme. Pour rendre cela possible, le LG OLED T a notamment été équipé du processeur Alpha 11 AI de LG conçu pour améliorer la qualité de l'image ainsi que pour prendre en charge Dolby Vision et les jeux 4K 120 Hz. Notons que ce téléviseur a été montré au public pour la première fois au mois de janvier de cette année, au cours du salon de la technologie CES 2024, donc c'était janvier l'année dernière. Depuis lors, nombreux sont ceux qui attendaient avec impatience que ce produit soit enfin disponible à la vente. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse et que vous avez 60 000 $ à dépenser, eh bien vous avez le super téléviseur OLED transparent de LG dans le viseur. On va pouvoir finir l'émission avec les quelques petites sorties jeux vidéo de la semaine. Donc on aura une sortie mardi 14 janvier avec Hyper Light Breaker sur PC. Et pour jeudi 16 janvier, on aura Donkey Kong Country Returns HD sur la Nintendo Switch et Assetto Corsa Evo qui sortira sur PC.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pourrez me retrouver lundi prochain pour mon autre émission Asian Bubble de 21h à 22h sur Neptune. Sinon, on se retrouvera vendredi prochain de 18h30 à 19h pour une nouvelle émission Cordialement Geek. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchéfet.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.